Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver. L'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent ?
Un peu enrhumé comme vous.
Oui.
Ça s'entend peut-être un peu.
Oui, mais voilà.
On va avoir, ce temps est bizarre.
On va avoir la voix.
Un peu froid.
On va avoir la voix enrhumée.
C'est ça.
Embrumée.
Un peu déraillée.
Exactement. Alors, vous n'avez pas déraillé ? Êtes-vous venu en vélo aujourd'hui ?
À pied.
Vélo.
À pied dans les belles rues de Toulouse avec du soleil et beaucoup de vent.
Ah, c'est ce qui vous a poussé
jusqu'ici.
Quand
les choses sortent du cinéma, ne vous envolez pas.
Oui. Restez attachés à votre fauteuil. Non, allez, vous pouvez vous promener un peu. Vous pouvez, bien sûr, ne pas passer toute votre vie au cinéma, seulement une grande partie. Et sinon, devant la télé, sur son canapé, vous pouvez voir quelques films que vous nous conseillez, Laurent.
Oui, je fais une sélection chaque semaine de bons films, que j'estime être de bons films à conseiller aux auditeurs. Et pour ce soir, il y a 5 films au cinéma et télévision. Il y aura un conseil de lecture qui, je suis sûr, plaira à notre invité.
Oh, voilà. Voilà une...
délicate attention. Pour
exactement, c'est ce que je cherchais, c'est ce que j'allais dire une bonne attention. Et oui, c'est ça, c'est pour tout à l'heure, Laurent. Il n'y aura pas de mécanographie ou de mécanique cinématographique, c'est mieux à dire comme ça, puisque notre Guillaume Sidom est malade, le pauvre, et nous pensons à lui.
Oui.
Et nous prions ses nombreuses fans de rester à la porte. Il n'est pas là de toute façon, donc nous n'avons pas grand chose à faire et à dire pour lui.
Oui, à part signer les autographes à sa place, mais bon.
Oui, mais ça.
Qu'elles accepteront.
Oui, peut-être. Néanmoins, il sera là, notre homme de loi des séries, dans son tribunal des séries, Grégory Com, qui, après avoir parlé d'un film la semaine dernière, vous souvenez, il avait parlé de Lolita, lire Lolita à Téhéran, le film d'Eran Riklis. Eh bien, cette fois-ci, il revient à ses amours, à savoir les séries. Et il nous parlera ce soir de Zero Day, la série qu'on peut voir sur Netflix, dans laquelle il y a Robert De Niro en vedette. Restez là, restez bien, bien prêts. Après toutes ces belles choses, eh bien, on retrouvera l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin, et l'ouvreuse, bien sûr. Il y aura les reprises sur le petit écran, on vient d'en parler, mais aussi sur le grand. Et puis, bien sûr, en fin d'émission, des coups de cœur, parce qu'on a toujours des films, des manifestations, voire des expositions que on a envie que vous alliez voir de notre part. Et puis, ce soir, nous avons un invité qui, lui aussi, a bravé le vent et est arrivé et a laissé sa planche à voile juste à l'entrée. C'est Franck Lubé qui est responsable, mais pas tout seul, de la programmation de la Cinémathèque. Bonsoir Franck Lubé.
Bonsoir.
Alors Franck Lubé, maintenant que la saison est bien avancée, qu'on sait qu'il faut retrouver la Cinémathèque dans deux endroits différents pendant la semaine, le début de semaine c'est au Pâté Wilson à Toulouse, et la fin de semaine c'est...
aux abattoirs.
À l'auditorium, hein,
c'est ça ? Ouais, auditorium aux abattoirs.
Du musée des abattoirs. Et là, on va parler d'une programmation que vous avez faite pour justement les abattoirs, qui s'intitule Film Noir. Oh, le film noir. Le film noir, qu'est-ce que ça signifie ? C'est un genre en soi, en fait, le film noir. Qu'est-ce qu'on met derrière ce vocable ?
C'est compliqué, en fait.
Oui, c'est pour ça que je vous passe la balle.
Alors, le film noir, on peut dire que c'est l'émanation du film policier qui voit vraiment le jour dans les années 40, avec peut-être un côté beaucoup plus sombre et des personnages qui seraient plutôt des anti-héros par rapport au genre policier des années 20, années 30. Voilà, il y a quelque chose peut-être qui est un peu plus sombre. Esthétiquement, ça emprunte au cinéma expressionniste, donc avec un noir et blanc, c'est souvent du noir et blanc, très tranché, clair-obscur, voilà, on joue énormément avec les ombres, donc on crée des ambiances, et il y a un côté, il y a aussi un côté tragique, j'ai envie de dire, comme si le destin se mêlait de l'histoire des personnages, et que les personnages dès le départ étaient condamnés, et que bah, nous, spectateurs, spectatrices, en fait, on le sait, et c'est aussi pour ça que l'on y va. Je dirais, enfin, pour moi, c'est quelque chose de la tragédie, mais la tragédie populaire, avec des personnages qui ne, voilà, qui ne sont pas des personnages de cour ou des dieux, demi-dieux,
oui.
Ou voilà, c'est
tout le monde, quoi.
Ou des guerriers, exactement. Mmh. C'est plutôt, on est plutôt du côté des losers, hein, mmh. dans le film noir. Et mais voilà, qui est quand même marqué du sceau de la tragédie que normalement on réserve, ou en tout cas que la littérature antique réservait à des castes dites supérieures. Mmh. Voilà, pour aller vite. Hein.
Et c'est pour ça que vous programmez notamment Assurance sur la mort, pour, ouais, pour justement illustrer ce que vous venez de dire, puisque le personnage central de ce film est un courtier en assurance.
Oui, absolument.
Il a rien à voir avec un quelconque gangster ou quelques malfrats, rien du tout, si
oui,
ce
oui.
n'est qu'il tomberait dingue amoureux d'une femme.
Exactement. Alors dans les codes, on va dire du genre, en général, les hommes sont des losers et les femmes sont fatales.
Oui.
C'est un peu un des codes importants en fait du genre. Et ben là par exemple, ce sera après, ça peut être dans d'autres films, mais oui c'est un courtier en assurance et qui tombe amoureux d'une femme magnifique et qui par amour pour elle va se retrouver embringué dans des histoires criminelles. Voilà, pour pas trop en dire non plus.
Il faut laisser planer le suspense. Il faut dire quand même que cette femme fatale, c'est Barbara Stanwyck,
qui est une actrice extraordinaire.
C'est pour ça.
Un jour, ça fait longtemps hein, qu'on en parle. Un jour, on fera une rétro Barbara Stanwyck. C'est une femme, c'est une actrice extraordinaire et de même une femme quoi, qui s'est vraiment imposée aussi. Enfin voilà, dans Hollywood, qui est vraiment pas très simple quoi, qui ne l'était pas. Je sais pas comment il est aujourd'hui, mais en tout cas de ce qu'on sait de l'époque, oui c'était très compliqué. C'était trop très compliqué pour les femmes. Et c'est un film qui juste hein, comme ça rapidement, mais
oui.
Et qui commence en fait par ce personnage en fait qui prend un micro et qui va enregistrer et raconter en fait son histoire. Il est voilà blessé, pour pas dire mourant, et il raconte voilà son histoire.
Il l'enregistre.
Ouais. Ça c'est quelque chose aussi dans le film noir, et c'est pour ça que c'est un genre qui est assez fascinant. On joue énormément avec le récit. On se permet des choses. Alors par exemple, on le montre pas. Mais si je me rappelle bien, dans le Crépuscule. Le titre m'échappe maintenant.
Boulevard du Crépuscule.
Boulevard du Crépuscule. Ouais, merci.
Sunset Boulevard.
Dans Sunset Boulevard, le film en fait nous est raconté par un mort.
Oui.
Si tu te rappelles, hein,
ouais,
en fait,
mais non, mais c'est ouais. justement ce que j'allais vous dire.
Ouais.
C'est-à-dire que souvent, on sait ce qui va se passer à la fin, parce qu'on sait très bien que cet homme-là finira mal.
Ouais.
Mais dans Sunset Boulevard, la surprise est encore plus grande parce que celui qui raconte est mort.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on trouve le mort, quoi, en fait. Et c'est lui qui raconte, c'est lui qui nous raconte l'histoire avec une voix off, etc.
Voilà. Il dit, vous savez, là, le corps dans la piscine qui flotte. C'est
moi.
Le mien.
Voilà. Et je vous racontais comment je suis arrivé là.
Voilà.
C'est dans le côté un petit peu comme ça. On peut dire, enfin, facétieux, façon de parler. de ce genre qui peut prendre quelques libertés parce qu'il est tellement codifié que voilà, on sait qu'à la fin de toute façon ça va finir mal, donc autant l'annoncer dès le départ et en gros comme ça on peut comme ça on peut aller vers d'autres endroits quoi.
Oui, on ne peut être que surpris.
Exactement, c'est ça.
On peut être que surpris. Vous savez qu'en début d'émission, on regarde un film. Alors, installez-vous. Là, il va falloir que vous regardez bien le bas de votre poste de radio. Pourquoi ? Ben, parce que c'est en VO.
Yeah. A minor, B minus, jazz.
Yeah, man, yeah.
Need some kind of intro.
No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And the love becomes a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Fire!
Robbie! Hey, man, can you give me another song?
Try now, we can only lose.
Can you give me about 5 minutes? I gotta figure out some kind of intro.
Il y en a un qui n'est pas très discipliné quand même parmi les quatre musiciens qui sont en train de, d'écrire, d'arranger un titre imaginé par l'un d'entre eux, le guitariste Robbie Krieger, qui a trouvé la mélodie de Light My Fire. Et ils sont là, les musiciens, Raymond Zarek au clavier, John Densmore à la batterie. Jim Morrison,
on
voit, oui, c'est les Doors, bien sûr, c'est les Doors en train de composer ce fameux morceau. Donc on entend les musiciens. Ça ne veut pas dire que Jim Morrison n'était pas un musicien. Il était aussi et surtout, c'est ce qu'il disait, un poète et ouais. Il écrivait les textes. Et là, on comprend bien que il a trouvé la mélodie, Robbie Krieger, et l'autre a trouvé les paroles, mais il lâche plus le micro, c'est fini. C'est-à-dire que il va falloir quand même mettre en forme tout ça, mais non, l'autre était un peu indiscipliné. Bon, le film n'était pas une grande réussite des biopics signés Oliver Stone, rappelez-vous, c'était en 1991, et Jim Morrison, en fait, c'est Val Kilmer qui lui prêtait ses traits. Alors, on parle de Val Kilmer, puisqu'on vient d'apprendre qu'il a disparu à 65 ans.
Non.
Et oui, il est...
Ah ouais, je ne savais pas.
Il est parti, alors...
Il était un peu diminué.
Il avait, vous savez qu'il avait eu un cancer de la gorge, mais qui était soigné. Alors, qui l'avait beaucoup marqué. On sait combien sont difficiles les traitements des cancers, mais lui en plus, comme c'était de la gorge, donc il avait dû faire 2 trachéotomies. Il avait, vous savez, un trou dans la gorge pour pouvoir respirer et pouvoir parler. Donc, il n'avait plus sa voix, mais sa santé allait bien, et là, sans doute fragilisé par l'état dans lequel il se trouvait, il est mort d'une pneumonie. C'est sa fille Mercedes qui l'a dit. Donc, une carrière qui est passée un peu partout, on l'a par tous les genres et par tous les stades. C'est un peu les
montagnes russes.
Les montagnes russes. On se souvient d'Iceman dans Top Gun.
Oui,
c'est ce qu'il a révélé.
Oui.
C'est celui qui est pas sympa. C'est pas sympa, sauf à la fin. Sauf à la fin, quand Maverick arrive et montre qu'il est un bon pilote, mais après, pour le reste, c'est pas terrible. Et puis, on l'avait vu aussi dans Willow, un des premiers films de fantasy. Maintenant, Le Seigneur des Anneaux et tout ça, tout est passé par là.
Il avait joué aussi dans, je crois que c'était Cœur de Tonnerre, un film.
Ah, oui.
Pardon.
Non, mais vous faites bien de
excellent
le dire.
Film, ouais.
C'est sans doute un très très bon film où il joue le rôle d'un jeune agent du FBI qu'on propulse dans une réserve indienne pour essayer de dénouer les liens d'une sombre histoire. On le fout là parce qu'il est jeune et parce que c'est pas terrible comme
mission. Et qu'il a des origines indiennes.
Qu'il avait oublié. Alors ça fait beaucoup et il se retrouve mal en point et finalement il s'en sort pas trop mal. C'est Michael Apted qui avait réalisé ce film. Je le disais, il est passé un peu par tous les stades. Hein. Il avait joué, quand je dis tous les stades, ça veut dire que il a eu un gros creux quand même. Néanmoins, est-ce qu'on peut considérer pas eux, c'est It de Michael Mann, comme un film noir. Tiens, puisqu'on en parle.
Ah oui, oui, oui. Bah, c'est... Alors, oui, parce
ça, ça défouraille beaucoup dans, dans It.
Bah, disons que c'est plutôt un film de braquage.
Oui, mais alors, dans c'est les, pas dans un
les,
film noir.
Dans les différentes définitions, le braquage peut rentrer dans le film noir. C'est-à-dire à un moment donné quand ça va forcément que ça va rater, etc. Ouais. Il y a ce côté de la loose qui est quand même qui fait le noir. Et ouais, on peut, je pense qu'il a des, oui, c'est un film qu'on pourrait mettre aussi. Bon, d'abord on penserait plutôt au braquage, mais on pourrait le faire rentrer un petit peu dans la case de film noir aussi. Ouais.
Et il était donc joué aux côtés de De Niro et Pacino.
Et Al Pacino. Oui.
Et pour la petite histoire, il semblerait que De Niro ait dit après le tournage qu'il ne tournerait plus jamais avec lui.
Pour quelle raison? Il expliquait.
Parce qu'il était insupportable.
Ah d'accord.
Ah oui.
Il était pénible sur un plateau. D'accord. Il ne remettait pas en cause ses qualités d'acteur, mais c'est pas un bon copain, quoi, okay. À l'époque.
Ouais, il y en a beaucoup comme ça. Harvey Keitel était ingérable.
Yeah, voilà. C'est... Maintenant, encore une fois, c'est une chose qu'on apprend en lisant.
Oui, quelques interviews par-ci par-là.
Voilà. Et, faut-il le croire sur parole?
Oui.
Voilà. Toujours est-il.
Bah, il était énervé ce jour-là, et puis voilà, ça s'est mal passé.
Mais... Ouais, voilà. Il y a plein de choses, mais il a fait
Batman.
Il a fait Batman. Oui, le premier Batman post Michael Keaton.
Schumacher. Après de Schumacher.
Ouais, ouais. C'était Michael Keaton qui l'avait été deux fois pour Tim Burton.
Ouais.
Tout le monde avait laissé le personnage. Schumacher fait Batman Forever, et c'est Val Kilmer qui est choisi pour jouer le justicier masqué. Les méchants sont l'homme mystère. C'est Jim Carrey. Mmh. Et Double Face, ça doit être...
Je me rappelle pas.
Double
c'est
Face...
Pas, c'est pas Donny Jr.
Non,
c'est le Scotch. Non. Le Scotch Double Face.
Ouais, c'est ça. Non, mais ça va nous revenir, ne vous inquiétez pas. Mais ça arrive, que voulez-vous? De temps en temps, on a des... Vous souvenez aussi, on a des trous de mémoire, mais vous souvenez aussi qu'il avait interprété le rôle de Mermoz dans Guillaumet, Les ailes du courage. Et c'est un film qu'on connaît peu, et pour cause, puisqu'il avait été tourné pour le Futuroscope.
D'accord.
C'est un des premiers films qu'on pouvait voir en 3D. Je crois, et il jouait dans ce film-là. Il était une espèce de produit d'appel. Hein, Michael Jackson l'avait bien fait pour Walt Disney.
Bien sûr.
Hein, non, c'est et bon, c'était pour parler de Guillaumet qui était parti à la recherche, enfin Mermoz qui était parti à la recherche de Guillaumet. Enfin, vous connaissez l'histoire.
Dans les Andes.
Et vous savez aussi que dans le Batman, il y avait Nicole Kidman, hein, qui était la
Catwoman.
Non. Elle était une journaliste. Hein. Non, un docteur, le docteur Chase Meridian. Et le méchant, la Double Face, c'était Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones.
Eh oui. Et puis il y avait une belle distribution quand même, même si le film n'est pas tout à fait réussi.
Je t'avoue, j'avais pas vraiment.
Non, ça marche pas.
Bon, je l'ai vu une fois, mais je l'ai jamais revu, quoi.
Non.
Souvenir impérissable.
Jim Carrey est particulièrement insupportable.
Il y avait un côté dans mon souvenir, il y avait un côté très justement très cartoon,
voilà.
Très comic book, finalement ça revenait un petit peu au ça pouvait rappeler ce qu'était la fameuse série des années 50, on était un petit peu de ce côté-là enfin il y avait un côté kitsch
parce qu'il y avait Robin dans le film.
Ça marchait pas, enfin bon voilà, j'ai jamais revu, peut-être il faudrait le revoir, hein.
Lui donner une
peut-être qu'ils vont le passer sur Arte en hommage. Je suis pas sûr.
Non, pour Arte, ça m'étonnerait, mais...
Par contre, j'en profite pour les auditeurs ou auditrices, si jamais, parce que vous parliez tout à l'heure des Doors, dans la galaxie Varda que l'on fait en ce moment, on avait programmé les Doors, donc je ne sais pas s'il repasse là ou s'il est déjà passé, mais du coup, vous pouvez le voir en salle, faut aller voir sur le site de la Cinémathèque, parce que je ne me souviens pas de la date.
Oui.
C'est quand même une belle occasion de lui rendre hommage quand même, quoi.
Et pour finir, on parlait de Val Kilmer. Il a tourné aussi beaucoup de films. Les Américains disent DTV, DTV.
Ouais, c'est le direct de direct to vidéo.
C'est-à-dire que c'est les films
qui
sont pas distribués, ils sont directement passés en vidéo. C'est vous dire s'ils pensaient que les films pouvaient marcher en salle. C'était pas très très bien, en tout cas. Ça montrait combien ils ne faisaient pas confiance aux produits, ni aux réalisateurs, ni aux acteurs. Voilà pour Val Kilmer, qui est apparu une dernière fois dans The Top Gun Maverick.
Maverick, ouais.
Et il est toujours Iceman, Tom Kazariski, c'est son nom. Hein. Iceman, c'est son surnom d'aviateur. Et qui est monté en grade, hein, qui protège le personnage Maverick incarné par Tom Cruise. Lui a gravi les échelons de l'armée de l'air. Pardon, alors que Maverick ne l'a pas fait. On voulait faire un clin d'œil à Val Kilmer, voilà qui est fait. Et on en fait un autre, à Yves Boisset, qui lui aussi est parti, il y a très peu de temps. Alors Yves Boisset, lui, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même genre. D'abord, c'était pas un acteur, même si il est apparu quelques fois, mais... Il est surtout réalisateur. Il a commencé sur les plateaux d'Yves Campi, Sergio Leone, Jean-Pierre Melville, Claude Sauté. Il a été assistant réalisateur de tous ces gens-là. Son premier long métrage, c'est Copland sauve sa peau. Vous savez, c'est film d'espionnage français. Et puis surtout, il est devenu, dans les années 70, une figure marquante de ce festival. Comment peut-on le qualifier, vous qui êtes un spécialiste de ce cinéma-là particulièrement, hein, puisque chaque fois il dénonçait des comportements à la fois sociaux, à la fois politiques.
Il allait beaucoup sur des sujets très politiques, que ce soit la guerre d'Algérie, que ce soit le shérif Juge Fayard, Dupont-Lajoie. On l'a reçu à la Cinémathèque. Il était venu. C'était quelqu'un de très 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 généreux. Vraiment très 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 généreux. Et c'est un cinéaste qui était plutôt dans la revendication dans ses films. Et donc travail plutôt d'enquête et après un travail forcément de mise en scène pour en faire aussi un objet cinématographique, j'allais dire divertissant, c'est pas ça, mais bon voilà, quelque chose assez ficelé et qui est un cinéma de dénonciation de travers sociopolitiques. Et je pense que il a énormément rencontré la censure. Il a été, je pense que les deux tiers de ses films ont été censurés, tellement il allait sur des sujets très très sensibles et il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, vraiment. Et c'est un cinéma qui est aussi, il y a ce côté politique et en même temps cinéma d'action. Même temps, c'est un cinéaste assez assez rare, hein, dans le paysage cinématographique français, c'est-à-dire vraiment c'est cette position entre le politique et le film, presque film de genre, film très musclé, presque cinéma d'action.
On peut le rapprocher de Costa Gavras.
Oui.
Côté militant.
Alors oui, et... mais oui. Sauf que Costa, il est peut-être plus politique que disons que action quoi.
Oui.
Il est plus souvent sur le côté d'un cinéma politique. On essaye de comprendre les rouages du pouvoir, du fonctionnement, de certains abus, etc. Et Boisset, il était plus percutant. Il avait un côté plus hypercute, plus boxeur quoi. Genre dire dans sa manière de mettre en scène, il était beaucoup plus frontal.
Il avait fait ce film sur les débuts de la télé-réalité là.
Oui,
le prix du danger.
Alors, génial. Je vous propose justement de l'écouter. Yves Boisset, vous l'avez dit, Franck Lubé, il était de passage à la Cinémathèque, c'était en 2012, pour Zoom arrière, les films interdits. Ouais. Le voilà donc, et vous allez comprendre que ma première question est très maligne.
Yves Boisset, nous nous rencontrons à l'occasion du festival organisé par la Cinémathèque de Toulouse, Zoom arrière, et cette année, le thème de cette manifestation, c'est films interdits. Parler de films interdits avec vous, ça va peut-être pratiquement de soi. Vous êtes sans doute le réalisateur français qui a été le plus en butte à la censure. Quel effet ça fait justement d'être dans une manifestation comme celle-ci pour parler de votre cinéma et aussi pour parler du cinéma qu'on ne peut pas voir dans les meilleures conditions?
Mais moi je crois que même si, comme vous le savez, la censure n'existe plus en France, puisqu'elle a été supprimée à la fin des années 70, non pas d'ailleurs comme le croient la plupart des gens par Mitterrand, mais par Giscard d'Estaing. Et alors il y a toujours une commission de contrôle des films, mais qui est uniquement destinée à protéger les jeunes spectateurs de films violents, éventuellement pornographique ou qui a un caractère réellement choquant. Et par contre, on s'était aperçu dans le courant des années 70 que souvent les mesures de censure débouchaient sur une sorte de publicité a contrario pour les films. Et finalement, les censeurs se retrouvait dans la situation du monsieur qui faisait pipi contre le vent et qui s'étonnait de se retrouver tout mouillé. Moi, j'en ai bénéficié à maintes reprises. Par exemple, j'avais un ennemi intime qui était M. Raymond Marcellin, épouvantable ministre de l'Intérieur des années 68, mais qui était un attaché de presse absolument remarquable. Je lui dois une grande partie de ma carrière. Parce que en interdisant un film comme Le Condé pendant 6 mois, en coupant 10 minutes, en nous obligeant à retourner une scène d'interrogatoire musclé, il avait créé une sorte de feuilleton autour du film dont l'effet le plus flagrant a été qu'il avait donné une envie furieuse aux gens de voir ce film qu'on voulait les empêcher de voir. Donc, je devrais être très reconnaissant à M. Marcellin de l'action bénéfique qu'il a menée en faveur de mes films. De même, M. Pasqua, qui présidait à une époque aux destinées du SAC, du Service d'Action Civique, en obtenant la suppression d'un juge qui était, je ne sais pas s'il était acheté ou s'il était vendu, mais en obtenant d'un juge la suppression de toute mention du SAC dans le juge Fayard dit le shérif, consacré à l'assassinat du juge Renaud, indiscutablement, Pasqua a fait une publicité énorme au film. Comme j'avais eu l'idée de poinçonner la bande sonore du film, c'est-à-dire que chaque fois que le mot sac était prononcé, comme on avait donné un coup de poinçon dans la bande sonore, quand le film passait dans le projecteur, on entendait bip. Alors quand Patrick Devers disait, enfin monsieur Machin, vous étiez bien membre du sac, on entendait enfin, monsieur Machin, vous étiez bien membre du BIP. Et évidemment, dans les salles, les gens qui avaient été mis au courant hurlaient « sac salaud, sac assassin ». Et c'était 10 fois plus remarqué que s'il y avait eu le mention du sac, parce que finalement, la plupart des gens ne savaient pas ce que c'était que le sac, et auraient confondu volontiers avec CGT, CFDT ou PSG.
comment Yves Boisset a vécu ces moments difficiles dans cette période où il a quand même réalisé une bonne dizaine de films en 10 ans, et avec Raymond Marcellin comme attaché de presse, hein, 5 ans, et c'était assez solide en tout cas avec lui. C'était une formidable rencontre que j'avais pu faire grâce à vous, la Cinémathèque, et c'est, il faut dire, un moment assez rare de parler avec un homme comme lui. Lui, c'est Yves Boisset. Hein. Et là, c'est Paul Misraki qui avait composé la bande originale du film, le juge Fayard, dit le shérif. Et sur cette musique, Laurent, vous allez nous dire quels sont les films à voir cette semaine.
Je préfère les 40 sacs que le sac. À l'affiche cette semaine, Deux Sœurs de Mike Leigh avec Marianne Jean-Baptiste et Austin David Weber. Pansy est rongé par la douleur physique et mentale et son rapport au monde ne passe que par la colère et la confrontation. Son mari Kurt Lee ne sait plus comment la gérer, et tandis que son fils Moses vit dans son propre monde. Seule sa sœur Chantal la comprend et peut l'aider. Abandonnant les fresques historiques, on se rappelle de Peter Lou ou Mr. Turner, le fameux peintre, Mike Leigh revient à l'étude de caractère intimiste avec ce drame familial ramassé qui rappelle ses premiers succès. Alors au centre du film, on retrouve Marianne Jean-Baptiste, presque 30 ans après Secrets et mensonges. Elle livre une interprétation spectaculaire dans le rôle de Pansy, donc cette femme brisée, incapable d'exprimer sa détresse autrement que par la colère qui s'abat sur ses proches, son mari, son fils et puis même la caissière du supermarché. Dans sa petite banlieue anglaise, Pansy erre prisonnière d'une rage qui la confine entre son salon, sa chambre et son lit, tel un animal blessé que la peur condamne à mordre. La seule étincelle de chaleur dans sa vie vient de sa sœur Chantal, donc qui tente de l'intégrer dans son univers familial aimant. Alors le titre français Deux Sœurs tente d'adoucir l'âpreté du film, en suggérant une relation fraternelle apaisante, bien loin des vérités qui dérangent, Hard Truth, que promet l'original anglais. Mais Mike Leigh n'offre en réalité ni réconfort, ni résolution facile. Pourquoi ne peux-tu pas profiter de la vie ? Demande à un moment Chantal à Pansy, qui ne pourra pas répondre et se recroquevillera un peu plus sur elle-même, comme si elle souhaitait disparaître. Syndrome de la sinistrose de notre temps, qui rappelle Michel Houellebecq. Son portrait pourrait être insoutenable, mais le cinéaste évite le piège du voyeurisme par sa tendresse sincère envers ses personnages. Jamais cynique ni caricatural, il offre un regard aussi lucide qu'humain sur les dégâts invisibles d'une âme en souffrance. Petite revue de presse sur ce film, Mike Leigh est encore et toujours un immense cinéaste, un observateur implacable de la condition humaine qui sait avec dignité et acuité transformer la douleur en grand cinéma, selon Première. France Info Culture a bien aimé aussi. Le résultat est frappant, comme si le réalisateur pétrissait le matériau humain, à la fois son sujet et son outil de travail, pour en sculpter les replis les plus intimes. Petit bémol pour La Croix, l'agressivité de l'héroïne est éprouvante, un parti pris radical qui rend le film haletant, mais un peu décevant. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Cassandre d'Hélène Merlin avec Billy Blain et l'excellent Guillaume Guix. Été 1998, Cassandre a 14 ans. Dans le petit malheur familial, ses parents et son frère aîné remarquent que son corps a changé. Heureusement, Cassandre est passionnée de cheval et intègre pour les vacances un petit centre équestre. Elle y découvre un autre monde. Voilà un premier long métrage assez étrange, peuplé d'ambiances disparates et pourtant au final totalement cohérent. Hélène Merlin, la réalisatrice, semble charger un peu la mule avec une famille faite de marbre dont l'extravagance flirte parfois avec le grotesque, mais qui va masquer de plus en plus mal une vraie brutalité pour certains. Et c'est précisément le prisme de ce tragicomique que la cinéaste fait peu à peu naître le cœur de son film. Je n'en dis pas plus, découvrez-le. Petite revue de presse, un puissant conte noir à la croisée des genres avec de la violence et de la poésie pour survivre au silence brisé, selon Première. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Lads de Julien Mélenchon, un film sur le monde des courses qui est assez peu traité au cinéma. C'est l'histoire d'Ethan, 17 ans, qui devient apprenti jockey dans une écurie d'obstacles. Au contact des purs sangs, il découvre le monde des courses, des paris, de l'argent. Sa passion grandit, mais sa frustration aussi. Courir pour gagner, mais toujours au service des autres. Bientôt, il devra choisir, transgresser les règles ou sauver sa peau. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Fanon, de Jean-Claude Barny, un biopic du psychiatre martiniquais. Natacha, vous savez, c'est la fameuse BD Natacha. Natacha, donc presque hôtesse de l'air, de Noémie Saglio avec Didier Bourdon. On peut voir Le Routard de Philippe Mekelen. On peut voir The Grill d'Alonso Ruiz Palacios au Régent à Saint-Gaudens ou à la BC à Toulouse. On peut voir un film iranien qui s'appelle Au pays de nos frères de Amir Fazili, l'américain cosmographe. On peut voir Minecraft, le film de Jared Hess. On peut voir deux documentaires. Le premier, c'est Ce n'est que nos revoirs de Guillaume Braque, qu'on peut voir à la BC de Toulouse. On peut voir aussi Jeunesse et les tourments de Wang Bing à l'américain cosmographe. Et puis côté film animation, il y a du lourd, il y a de quoi faire. Nous voilà grand, un programme de court-métrage dès 3 ans, qu'on peut voir par exemple à la BC à Toulouse. On peut voir aussi Colargol et le cirque Pimolu, un programme de 4 cours dès 3 ans. On peut voir aussi Ozzy, la voix de la forêt, là c'est plutôt dès 6 ans, de Tim Harper. Et pour finir, pour les petits et les grands, Astérix et les Vikings, dès 6 ans on va dire, un film de Jesper Moller, qui est un ancien dentiste, sachez-le, qu'on peut voir au CGR Montauban ou à Blagnac.
Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Pour entendre Light My Fire, complètement fini par les Doors, les bons, les vrais, avec Jim Morrison qui chante, et vous vous rendez compte qu'il y avait de longues plages instrumentales, et même si Morrison n'était pas un musicien, il ne pratiquait pas d'un instrument, il était chanteur, néanmoins la musique existait. Malgré tout, quand il a disparu, le groupe ne lui a pas survécu. Et si nous allions du côté du 0D, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Jour Zéro? Une série à voir sur Netflix? Ah bon? Eh bien, Grégory Combe va nous en parler. C'est tout de suite dans le tribunal des séries.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, alors souvent je vous taquine, vous le savez, en vous disant que le format série télé est bien plus sympathique que le format film, que ça permet de mieux raconter les histoires, et qu'au final, les séries télé vont remplacer le cinéma. Alors sur certains points, je n'ai pas changé d'avis, notamment quand je vois les tarifs aujourd'hui des places de cinéma, les incivilités dans les cinés et le fait que on paye de plus en plus cher, il y a de moins en moins de personnel, il y a de moins en moins de vie de cinéma. Donc ça là-dessus, je ne change pas d'avis. D'autant plus quand on a un très bon équipement chez soi. Mais le format série télé n'est pas toujours bon. Il n'est pas toujours bon parce que parfois, ce média a tendance à étirer les intrigues pour vivre, même quand il fait des mini-séries télé. Alors vous allez me dire, OK, où est-ce que vous voulez aller? Je vais vous parler de la série télé Zero Day. Alors déjà, c'est une mini-série donc, qui se termine en une saison. Et on a un casting de dingue, hein, notamment Robert De Niro en personnage principal, George Mullen, donc quelqu'un qui est purement du cinéma et qui vient en série télé. Et un scénario digne véritablement des meilleurs films d'espionnage de Tom Clancy. Donc en fait, George Mullen, c'est l'ancien président des États-Unis. Il est toujours très populaire, mais il n'a pas souhaité poursuivre sa carrière. On ne sait pas trop pourquoi. Et arrive quelque chose de catastrophique, une cyberattaque généralisée qui va causer des dommages extrêmement importants aux États-Unis. Et la présidente en charge du pays à ce moment-là demande à George Mullen, donc Robert De Niro, de présider la commission Zero Day qui va être chargée d'enquêter sur la cyberattaque qui vient de frapper le pays avec des pouvoirs étendus. Donc, scénario captivant, chose totalement crédible, réalisation soignée. En plus, c'est une série qui va aborder pas mal de thèmes. Elle va aborder effectivement le thème de l'enquête, des risques cyber, mais aussi des méandres des décisions que peuvent prendre les politiques aux États-Unis avec un corpus juridique qui parfois peut nous étonner. Il y a une vraie aussi analyse des enjeux politiques actuels et futurs, parce que ils ont rajouté un petit point qui est intéressant, c'est que la femme de George Mullen va justement aller vers un poste de juge, et donc les décisions, elle a été nommée juge cour d'appel des États-Unis, et donc les décisions que va prendre George Mullen, ça va interroger sur la carrière de sa femme, donc on a aussi un petit peu de House of Cards. Donc tout ça, c'est très bien. Mais, en fait, c'est trop long. C'est trop long, il y a trop de sujets, on va rajouter là-dessus une possible maladie du président. Et en fait, sur les 6 épisodes, il y en a 4 d'utiles. Je le dis franchement parce que le sujet sur sa maladie, est-il malade, est-ce que c'est autre chose, est-ce qu'il est attaqué, pas attaqué, on s'en fout, c'est long, c'est pas bien fait, c'est ennuyeux. Alors attention, hein, ne vous trompez pas, la série est somme toute excellente, mais elle est excellente sur ses 4 derniers épisodes sur 6. Le premier épisode est vraiment prenant par rapport à l'attaque en question. Et après, c'est un peu long à se mettre en place. Et en fait, je vais vous dire, je pense que c'est une série qui aurait mérité, en fait, d'être un film de 2 heures. Et c'est pour ça que je vous disais que parfois, le format série, ben, il est pas bon, parce que quand on étale trop, c'est un peu long. Alors, je ne vais pas vous dissuader de regarder cette série. Elle est très bien réalisée. Quand il y a des scènes d'action, elles sont extrêmement percutante. L'enquête est haletante et intéressante. L'analyse des États-Unis et je dirais de toute leur crispation et de tout leur traumatisme est très intéressante, surtout au regard de l'actualité aujourd'hui. Mais c'est parfois un peu long. Donc, ce que je vais plutôt vous conseiller, c'est de prendre parfois votre mal en patience, parce qu'elle mérite d'être regardée, cette série. Et Robert De Niro est assez exceptionnel, comme toujours. Elle est intéressante, elle va jusqu'au bout. Vous serez satisfait, mais il y a des longueurs. Et c'est pour ça que je pense, encore une fois, qu'un film aurait été beaucoup plus intéressant, surtout que certains plans sont magnifiques. Et au cinéma, ça aurait quand même valu le coup de les voir. Donc voilà, chers auditeurs, votre temps est précieux. Et je vous conseille de le dépenser devant Zero Day, même si parfois, il faudra prendre un peu son mal en patience. Je vous remercie.
Il est mal installé, hein ? Il est à la fois sur un fauteuil de cinéma et sur son canapé. Il ne sait pas trop où se situer, notre Grégory Com. Néanmoins, on comprend que Zero Day mérite d'être vu. Alors, il faut voir les 2 premiers épisodes, forcément, sinon on ne va pas comprendre les suivants. Mais on aurait pu s'abstenir de les voir. Enfin, vous savez, c'est compliqué. Bon, voyez Zero Day, et c'est le mieux que vous ayez à faire. Est-il besoin de dire quelle est cette musique, Laurent ? Est-il besoin de le dire ? Non.
Non.
Mais on le dira quand même.
On le dira quand même. Allez.
C'est Vangelis qui avait écrit en 1982 la BO de Blade Runner, hein, comme vous venez de le dire. Blade Runner qui tournait par Ridley Scott, hein, une adaptation d'un bouquin de Philip K. Dick. K. Dick qui a été sans doute un des auteurs de ce genre de littéraire. Il écrivait pas trop de romans, lui, c'était plutôt des nouvelles, mais il a été adapté de nombreuses fois au cinéma, dont celle-ci. Le titre original de la nouvelle, c'est pas Blade Runner, c'est Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. C'est important quand on voit le film, bien sûr, avec les réplicants qui sont des androïdes. Il faut voir ou revoir le film, surtout la voir avec sa directeur Scott, puisqu'il a eu quelques problèmes, Ridley Scott. Quand ce film est sorti, il n'a pas bien marché, et puis surtout, la production ne comprenait pas trop ce qu'il voulait faire, un film de science-fiction, ils ont fait changer la fin, et en faisant ça, la fin comme il le souhaitait, à la directeur Scott, c'est rare, mais pour être signalé, il n'a rien rajouté, il a simplement remonté le film comme il avait envie de le faire, et la fin est beaucoup plus ambiguë qu'elle ne l'est dans la première version, celle qui est apparue sur les écrans en 1982. Donc c'est cette version-là que vous verrez, la dernière, au Pâté la Bêche, lundi prochain à 21h, dans sa version originale. Allez, on se dépêche au Pâté Wilson, le même jour, à 19h30 et 20h, Il était une fois la conspiration du Caire. Ou pourquoi tourner un film sur le Caire alors qu'on n'a pas le droit de le tourner dans son pays? En fait, c'est ça le principe de ce court-métrage. La conspiration du Caire, c'est Tariq Saleh, et le réalisateur du court-métrage, c'est Amin Mestari, et qui essaye de dénouer le fil de cette histoire. À voir donc lundi prochain, 19h30 et 20h au Pâté Wilson. Le Miroir aux Alouettes, c'est dimanche 6 avril à 18h20 au VO de Muret. Une projection suivie d'un débat avec Maurice Legacy, coordinateur régional du Mémorial de la Shoah. Le Miroir aux Alouettes, c'est l'histoire, ça se passe en 1942, dans la première République slovaque. Évidemment, les commerces juifs sont tous placés sous gérance arienne. Et le maire envoie il envoie son cousin qui est menuisier, qui a pas de fric. Il lui dit, ben tu vas aller là-bas dans cette boutique et tu vas la prendre pour toi, puisque maintenant ça doit être à rien. Mais la vieille dame qui est là croit que c'est un commis qui va, elle est âgée, et il va se tisser des liens entre deux assez particuliers qui vont justement se dérouler dans ce climat, 42, la Shoah, c'est bien compliqué, et finalement, ça s'en sort pas trop mal, et le film mérite largement d'être vu. Le Miroir aux Alouettes, un film de 1965, et puis pour finir, à l'American Cosmograph, c'est Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Les quatre personnages ont but à la drogue, qui ont chacun leur trip à découvrir dans ce film un peu particulier. Voilà pour les films et les reprises sur le grand écran. Sur le petit, c'est avec vous, Laurent.
Le cinéma, la télévision, ça commence dès ce soir, mercredi, sur C-Star, c'est la 17e chaîne, à 21h10, avec Green Zone de Paul Greengrass, avec Matt Damon. En 2003, Bagdad, Miller et ses hommes retrouvent la piste du général Al-Hawi. Le militaire prend l'initiative de former un groupe pour l'arrêter. Avec un style toujours découpé et énergique, Paul Greengrass concocte une course-poursuite effrénée avec un final haletant. Vendredi, France 5, 21h, Une belle fille comme toi, 72, Truffaut, avec Brigitte Lafont, Bernadette Lafont, pardon, André Dussolier, Claude Brasseur et Charles Denner. Stanislas, un jeune sociologue, prépare une thèse sur les femmes criminelles, ce qui l'amène à rencontrer en prison l'étonnante Camille Bliss, la belle détenue soupçonnée d'un meurtre, lui raconte son parcours d'une amoralité assez jubilatoire, voilà une comédie truculente, hein, même s'il y a un rythme assez inégal. Samedi sur France 4, 21h, ce sera La belle saison de Catherine Corsini avec Cécile de France et Isia Higelin. En 71, Delphine, fille de paysan, monte à Paris. Carole, elle est parisienne et vit activement les débuts du féminisme. Lorsque Delphine et Carole se rencontrent, leur amitié fait basculer leur vie. Récit vibrant et sensible d'une belle passion. Lundi sur Arte, ce sera une soirée vieux film noir. Vieux film noir et en noir et blanc. Et parfois sous-titré. Comme dit mon fils. J'arrive pas à lire, c'est sous-titré. À 21h, ce sera Les Grandes Familles, un film de 58 de Denis de la Patellière. Ce ne sera pas sous-titré puisque le film est français, avec Jean Gabin, s'il vous plaît. Un portrait mordant des mœurs de la haute bourgeoisie. Par contre, le film sera suivi de Les Assassins sont parmi nous, un film de 46 de Wolfgang Stodde. Là, le film sera sous-titré. Un classique du cinéma allemand d'après-guerre qui aborde avec force la question des crimes de guerre et de la culpabilité. Vous imaginez, on est en 46. Hein. C'était tout proche. Le conseil de lecture, mon cher Franck, ce sera pour vous. Vous l'avez déjà lu, j'en suis sûr, vous l'avez même déjà dédicacé par l'auteur. Il y a bien longtemps, dans une salle de montage lointaine, très lointaine, de Paul Hirsch. Je rappelle que Paul Hirsch est l'un des plus grands monteurs de l'histoire du cinéma. Il retrace ici 50 années de montage, de succès hollywoodien avec La Guerre des Étoiles, bien sûr, Carrie, La Folle Journée de Ferris Bueller, Mission Impossible et bien d'autres. Voilà, un très beau livre que vous retrouvez aux co-éditions Carlotta Film et Almano Film pour la modique somme de 20 euros. Voilà pour le cinéma et la télévision cette semaine.
Gilda, get your clothes on. You're getting out of here.
Are we, Johnny? Are we?
Not we. You.
You do hate me, don't you, Johnny?
I don't think you have any idea how much.
Hate is a very exciting emotion. Haven't you noticed? Very exciting. I hate you too, Johnny. I hate you so much that I think I'm going to die from it.
When they had the earthquake in San Francisco.
Eh oui, c'est Gilda. Franck Lubé, Gilda. Comment dire je te hais, ça, si c'est pas une extraordinaire déclaration d'amour, j'ai rien compris au film. Hein. Ah, oui. I hate you too. La façon dont elle le dit, ouais. On comprend que c'est pas ça qu'il faut comprendre.
C'est un des...
un monument du film noir, ça.
Ah, c'est un des plus grands films, ouais, au-delà même du film noir. C'est un film...
Sans qu'il soit noir.
Oui, bon, il est particulièrement noir, hein, mais... Non, Eric Towers, qui est juste extraordinaire, de sensualité, c'est un très très grand film qui a vraiment lancé Eric Towers, hein, qui était, je sais pas si vous le savez, mais les GI, en fait, ils appelaient la bombe
oui.
Gilda. Oui. Ils mettaient sur la bombe la bombe atomique.
Oui, ils écrivaient à la craie des
noms. C'était signé Gilda et Raymond Borde, fondateur de la Cinémathèque de Toulouse, qui est un fin connaisseur du cinéma noir, et il l'appelait la bombe anatomique.
Ah, ben oui.
Ah, ouais. Et non, c'est un film, oui, c'est un des. Je pense que, enfin, moi, c'est un de mes films préférés avec. Bon, je ne peux rien avoir d'autre, mais je dirais avec Laura, pour rester sur deux noms féminins, voilà, qui sont. Et dans Gilda, juste pour finir, il y a quand même cette scène qui est une scène de. Une scène culte. Elle danse, et en fait, où elle va retirer son gant, c'est quand elle chante
la chanson blame, qu'on entend
ouais, voilà, derrière. Put the blame on me. Et qui est. En fait, c'est un striptease, juste la manière dont elle retire, son gant. Ouais. En fait, on est en mode striptease. C'est un film, c'est un film génial. Sans parler, après, derrière, il y a toute une histoire aussi, parce qu'il peut y avoir une relecture avec, une relation un peu trouble entre les deux hommes dans un trio, une relation à trois très, très particulière. C'est un film génial.
Donc, c'est un film qui fait partie de la programmation sur le film noir.
Absolument, c'est même le premier sur la liste.
Et bien voilà le deuxième, alors. Quelle mélodie, c'est ce que les Américains appellent le end credits, c'est la musique qui a été composée spécialement pour le film. Quand même, le film, bien sûr, c'est Laura, d'Otto Preminger.
Avec Jean Tierney.
Oh, comment ne pas être amoureux de Jean Tierney ?
Le film est alors là aussi là le film il est au-delà de la question en fait du noir, le film est génial, c'est on découvre le cadavre d'une femme et donc là il y a un officier, je crois que c'est le LAPD, et qui donc qui mène une enquête et en fait il tombe amoureux de cette victime.
Voilà.
Il tombe notamment amoureux à cause d'un, enfin, grâce à un portrait d'elle, un tableau. Et c'est, je vous en dis pas plus, il faut aller le voir parce qu'on peut pas en dire plus si on connaît pas le film. C'est un film remarquable à voir, à revoir. Voilà, on se demande si la fin est vraiment la fin ou si
oui.
tout ça n'est qu'un fantasme, finalement, et peut-être un rêve.
Et c'est la question qu'on se pose. Moi j'ai ma réponse.
Moi aussi. On en parlera hors micro.
On en parlera hors micro, évidemment. Cette belle programmation, on la retrouve donc toutes les fins de semaine au Musée des Abattoirs à Toulouse, dans son auditorium. Elle gravite autour du film noir. Il y a plein d'autres choses aussi. Le Caire confidentiel et d'autres encore. Que Dios nos perdone. Vous savez, il n'y a pas que les Américains qui font des films noirs. Et il est bon de le signaler. Nous sommes partenaires. Vous voulez aller voir un de ces films, cinéma@radioprésence.com, et vous foncerez aux abattoirs. Sinon, Laurent, vos coups de cœur.
Les coups de cœur, ce sera pour deux sœurs, Cassandre, Lads, et le film noir aux abattoirs jusqu'au 4 mai.
Deux sœurs de Mike Leigh et Ozzy, la voix de la forêt. Oui, moi j'aime bien les dessins animés.
Ah oui, des 6 ans.
Oui, ouais. Des 6 ans, ben voilà. J'ai su rester enfant, bondissant. Et évidemment, les films noirs. Ah
oui,
les films noirs. C'est... Ah. J'aurais voulu être détective privé, avoir un impermastique et un
très beau garde.
Un doulos. Il y est d'ailleurs le doulos.
Ah oui, absolument.
Merci Franck Lubé.
Merci à vous.
Merci Laurent.
Merci, bonne soirée.
On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que Guillaume Sidom sera guéri la semaine prochaine. Salut.
Je crois en la vie éternelle. La foi guide ma vie. En léguant à l'Église catholique, je témoigne de mon attachement à Jésus-Christ et à la mission de l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr.